M'excuse pour le retard, monsieur. J'ai fait ce que j'ai pu.
Tout le monde fait ce qu'il peut, hein.
Tracasse.
Voilà, je venais de commencer. Quand vous avez un arbre à 10 mètres devant vous, bien imposant, et qu'il y a 300-400 mètres derrière un petit bosquet ou une petite forêt, vous ne voyez pas la petite forêt, vous voyez l'arbre qui cache la forêt. Qu'à un certain moment, quand il y a l'éclipse du soleil, la lune est si proche, elle fait la même dimension que le disque solaire qui est beaucoup plus loin. Elle est proche, alors qu'elle est beaucoup plus petite. Son diamètre permet, et sa proximité, de cacher le soleil. Ça s'appelle une éclipse due au soleil. Donc, la lune qui est petite peut cacher le soleil. Ce que je veux dire, c'est que la guerre de l'Ukraine, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la lune qui cache le soleil. Voilà. C'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point, c'est que je fais un récapitulatif. Monsieur Gorbatchev de la Russie et Monsieur Cyrus Vance, représentant les États-Unis, et tous les chefs des délégations des affaires étrangères de l'Europe étaient là pour signer la réunification de l'Allemagne et la démolition du mur de Berlin. En échange de quoi? Que Gorbatchev donnait l'autonomie, la liberté aux pays satellites, tels que la Roumanie, la Pologne et d'autres, de devenir indépendants. Mais une condition stricte, qu'ils ne fassent pas partie de l'OTAN, d'une organisation militaire qui serait trop proche, trop dangereuse pour la Russie. Donc tout a été conclu comme ça. 15 jours après, M. Reagan, qui était un ancien acteur de cinéma et cow-boy dans les cinémas, dans les films de cow-boy, décide que tout ça, il le met sous la table. Et lui, il refuse et il est d'accord d'envoyer des émissaires de l'OTAN pour demander à ces pays-là s'ils veulent faire partie de l'OTAN. Ce que plusieurs ont accepté, puisqu'ils avaient peur du communisme. La deuxième chose, c'est que la Russie a été déçue une autre fois, de manière plus importante. C'est que M. Reagan, voyant que M. Gorbatchev avait une grande audience en Europe, était vu comme un homme de paix, un homme pacifique, pacifiste, et qu'en Russie, on était content, eh bien, il a fait baisser le prix du pétrole et du gaz en accord avec les Arabes, et dans le commerce international du pétrole et du gaz, les prix ont chuté de telle manière que la Russie qui en vendait a été ruinée. La Russie n'a pas pu, pendant plusieurs années, rentrer de l'argent, et donc M. Gorbatchev s'est trouvé dans une situation très difficile. Il ne pouvait plus gérer le grand État de Russie. Et il a été la tête de pipe des Russes, des anciens communistes, des gens mécontents, comme s'il avait été considéré comme un traître. Donc, toutes les promesses ont été trahies par l'Occident et la chute des prix du pétrole et du gaz a été l'arme redoutable qui a fait tomber Gorbatchev, qui a amené Eltsine, un alcoolique dangereux, et puis ensuite Poutine. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les États-Unis et l'Europe ont souvent des attitudes différentes devant la Russie, mais les États-Unis n'aiment pas la Russie. Il faut savoir que, en 1917, M. Lénine, qui est un grand prédicateur, qui est d'origine russe, un prédicateur du marxisme, de Karl Marx et de Hegel, était réfugié en Suisse. Les banques américaines, allemandes et suisses ont donné de l'argent et l'ont envoyé par la mer, par bateau, à Saint-Pétersbourg, dans le nord, où il y avait déjà des révoltes ouvrières, là où il y avait beaucoup de soldats qui avaient perdu les batailles contre l'Allemagne en 1914-17. Et donc, la population a accueilli avec joie le marxisme, le bolchevisme, et a donné le coup de grâce à la famille du tsar. De nouveau, pourquoi, il faut savoir pourquoi l'Europe a fait ça. d'envoyer un prédicateur du bolchevisme. Ben parce que avec le tsar Pierre, Alexandre II, etc., la Russie s'industrialisait, devenait riche et puissante. Et cela dérangeait joliment l'Allemagne et les pays tels que les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, il fallait absolument mettre le désordre, la pagaille en Russie. Voilà deux exemples flagrants où l'Occident a joué un sale rôle dans l'histoire de la Russie. Les Russes ne sont pas plus bêtes, ils savent tout ça, et Michel Debeuf, qui habitait à Gomery, qui travaillait au bois avec nous il y a 15 ans, a dit, quelqu'un de ma famille travaille à l'OTAN, elle m'a confié qu'on aurait la guerre entre l'OTAN et la Russie dans 15 ans en Ukraine. Donc, cette guerre n'est pas un accident dû à Poutine, c'est quelque chose qui a été bien mené pour exciter M. Poutine. Ce qu'il y a, c'est que c'est à peu près 18 milliards de dollars que les États-Unis ont déjà dépensés dans cette guerre, plus l'Europe, un peu moins, c'est des sommes folles. Sinon, l'Ukraine serait déjà prise entièrement depuis longtemps par M. Poutine. Bon, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Il y a différentes choses qui se passent, évidemment. C'est que l'Europe s'affaiblit en dépensant de l'argent, déjà pour le Covid, qui a enrichi les Américains, et s'affaiblit encore en payant la guerre d'Ukraine. L'Europe, quand on voit le cours, la valeur de l'euro et les problèmes du coût de la vie, ça vient de là. L'Europe est en train de s'affaiblir, s'appauvrir, et ça arrange les États-Unis. Ça arrange les États-Unis parce que nous étions trop copains avec les Russes, nous achetions beaucoup de choses aux Russes, beaucoup de choses aux Chinois. Quand M. Trump a décidé, quand il a eu son mandat, de beaucoup moins acheter à la Chine et de taxer les produits chinois et de reproduire des tas de produits, de rouvrir des manufactures, des entreprises aux États-Unis, il est arrivé à faire disparaître le chômage. Et il est arrivé à casser cette dépendance vis-à-vis de la Chine. Ce que l'Europe n'a pas fait. Et M. Poutine n'était pas content. Et ce qu'a fait M. Trump, il a envoyé du gaz et du pétrole beaucoup moins cher que celui des Russes, des Turcs, des Arabes, de façon à ce que l'Europe n'aille pas tout acheter à la Russie, à la Chine, parce qu'en achetant, elle l'enrichissait, et encore maintenant, elle enrichit toujours la Russie et la Chine. Donc, clairement, il y a un conflit majeur au niveau économique entre les États-Unis et la partie marxiste, Chine et Russie, et entre, il y a une Europe qui n'a pas de conduite politique solide et qui est en train de se casser la figure. Alors, il n'y a pas que ça qui est arrivé. En 2002, le Septentrion a été créé, ce qui s'appelle dans la Bible le Septentrion. C'est quoi? C'est tous les pays de la Russie, et, y compris l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, etc. Tout. La Grande Russie de Staline. La Grande Russie, elle avait signé un accord ensemble, militaire stratégique, en 2002. Or, il se fait que deux pays n'ont pas respecté leur engagement, c'est la Géorgie qui s'est intéressée à l'Europe, aux États-Unis, et qui a voulu s'émanciper, et il y a eu des chefs d'État favorables, mais il y a eu des attentats, et on a mis des gens favorables à la Russie, puis pour finir, maintenant c'est des gens favorables à l'Occident. Mais comme punition, Poutine a bien montré qu'il était le maître du jeu. Il envahit toute l'Abkhazie au nord-ouest et l'Ossétie qui est au centre. Et il déplace les frontières tous les mois de 100 mètres, 200 mètres. et ils gagnent du terrain, et on n'en parle plus.
Et la guerre Albanie, Kosovo,
tout ça, j'en parlerai après. Je n'ai pas les dates de tout. Hein. Alors, je n'ai pas les dates de tout parce que ce n'est pas trop, trop important. Mais cet accord en 2002 qu'a créé le Septentrion, c'est exactement ce dont on parle dans Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Alors, où parle-t-on du Septentrion ? Ézéchiel, chapitre 38, versets 15 et 16. Ézéchiel, chapitre 38, versets 15 et 16. Bon, je vais commencer au verset 14. Ézéchiel 38, 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, donc Ézéchiel, hein, il l'appelle comme ça, c'est Dieu qui dit... Dis à Gog, donc à la Russie, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, te le saura. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du Septentrion, toi de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple, comme une armée qui va couvrir le pays. Dans suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, car je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au Gog. Donc, l'attaque de toute cette alliance qu'on appelle le Septentrion, qui contient la Russie, finira mal pour eux, finira très mal, et elle servira à la gloire de Dieu pour convaincre un peuple rebelle, qui est l'Égypte, de se convertir à Jésus. Et beaucoup de nations. Maintenant, il faut savoir que l'alliance du Septentrion est en fait au mois d'août, à la fin du mois d'août 2022. La Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran ont fait une alliance. Cette alliance s'appelle l'Alliance du Nord. Alors... dans Ézéchiel 38, fils de l'homme, tourne ta face au début hein, vers Gog, au pays de Magog, Russie et Turquie, vers les princes de Roche, Meshech et Tubal, c'est des régions de Turquie, prophétise contre lui. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'en veux à toi Gog, prince de Roche, Meshech et Tubal, c'est des régions de Turquie. Hein. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée. Chevaux et cavaliers tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier, le petit bouclier, tous maniant l'épée. Unis à qui ? Regardez bien, avec ceux de la Perse, donc l'Iran, d'Éthiopie, donc c'est le Soudan et l'Éthiopie actuelle, l'Érythrée et Somalie, et Put, la Libye. Tous portant le bouclier et le casque, verset 6, Gomer et toutes ses troupes, la maison Torgama, c'est une région qui se trouve au sud de la Turquie, qui se trouve dans le sud du Kazakhstan, etc., à l'extrémité du Septentrion et toutes ces troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Ils vont envahir le pays d'Israël. Cette alliance du Nord a été signée à la fin du mois d'août, début septembre, entre ces pays-là. Et pour bien vous dire que les responsables qui ne sont pas des autres pays, qui ne sont pas chiites, l'Iran est chiite, et les sunnites sont leur tête de pipe, vice-versa, depuis toujours, les sunnites ont peur des chiites, puisqu'ils sont avec la Russie, ils sont avec la Turquie, ils sont avec des pays très puissants. Alors, qu'ont-ils décidé ? Ils sont décidés de s'allier à Israël. Et on appelle ça, en septembre 2022, l'Alliance d'Abraham. Ils l'ont appelé comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils descendent tous d'Abraham. Soit par Isaac, soit par Ismaël. Israël, l'Égypte, les Émirats arabes, le Bahreïn, la Jordanie, et le Maroc ont signé un accord parce qu'ils ont peur de cette alliance qu'on appelle l'Alliance du Nord. Ils ont très peur parce qu'ils savent que tout est préparé. Les autoroutes, les chemins de fer sont préparés déjà jusqu'au port de la Syrie et de l'Irak et il y en a déjà en Afrique aussi. Donc, tout est médité, tout est préparé. Alors, c'est une alliance douteuse. Pourquoi ? Pourquoi je la dis qu'elle est douteuse ? Parce que Israël, normalement, s'il compte sur Dieu, ne devrait pas s'allier à des gens qui ne l'aiment pas. Il ne devrait pas faire de l'opportunisme. Souvent dans la Bible, les prophètes ont critiqué le peuple juif hébreu d'avoir fait alliance avec l'Égypte ou avec la Syrie ou l'Irak, la Babylone. Ils ont toujours dit « Dieu seul peut te défendre ». Les prophètes ont dit ça. Mais les responsables politiques d'Israël et de Jérusalem ne voulaient rien entendre. C'est souvent pour ça que des prophètes se sont fait tuer. Regardons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 22.
Il y a
un table des matières, hein, de toute manière. C'est sûr, c'est le plus simple. Parce que, bon, par exemple, si Boudin a une Bible catholique, l'ordre des livres n'est pas le même que nous.
Non.
Alors, il faut regarder la table des matières.
Oui, monsieur.
Voilà. Mais pour Christian, peut-être la même chose, je ne sais pas. Les Chroniques 20. Quand tu vas à la messe ben, à Oudemont, ben, la Bible n'est pas dans le même ordre que la Bible des protestants et des juifs. Hein? Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 22 à 25. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, c'est-à-dire c'est la Jordanie, et de ceux de la montagne de Séir, donc le sud de la Jordanie, qui étaient venus se battre contre Juda, c'est-à-dire Jérusalem. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Donc, ils sont en train de... Les ennemis d'Israël sont en train de s'entretuer entre eux. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Donc, ils se trucident. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, c'est au temps du roi Josaphat, hein, tout ça, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat, le roi, et son peuple allèrent prendre les dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux, ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au piège du butin, car il était considérable. Bon, clairement, on voit que les disputes entre les peuples hostiles à Israël sont, d'après le texte ici, instigées par Dieu. Au verset 22, l'Éternel plaça une embuscade. Donc, comment que ça c'est possible ? En fait, si vous voulez, il faut savoir que dans tous ces peuples qui sont hostiles à Jérusalem, aux Juifs, c'est toujours des chefs de tribu. C'est toujours des chefs de tribu qui se jalousent. Et ils finissent toujours par se détruire. Depuis 20 ans, si la Syrie et l'Irak ne s'étaient pas déchirés au sein de leur pays, entre tribus, entre courants, même pas question d'islam, déjà avant ils le faisaient. Ils auraient attaqué Israël, ils auraient pris Israël. Mais ils s'entretuent tous entre eux. J'ai un ami, mon ancien cardiologue qui provient de là-bas, il m'a dit « il n'y aura jamais la paix, ils aiment trop le sang ». Je ne vais pas citer le nom du médecin, mais en tout cas, c'est la réalité, il me l'a dit, et toute sa famille et lui ont fui. C'est des gens qui sont sanguinaires. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont sanguinaires ? Ah, pourquoi est-ce qu'ils sont sanguinaires? Eh bien, nous allons aller dans le livre de la Genèse.
Chapitre.
Oui, j'arrive. Je dois avoir noté ça quelque part, mais voilà.
Oui, Hélène, tu notes, hein, qu'il n'y a pas. C'est pour le chapitre.
Une part du
siècle.
Ah bon? Une part.
Il fait ça.
Ah
bon, d'accord. Okay.
Alors.
Je croyais que tu avais des coups.
Il faut d'abord, on va lire un texte qui s'appelle Genèse, chapitre 14.
14. Rien, elle a retrouvé quelque chose. Oui. L'aucune part. Abraham, vainqueur de plusieurs rois.
Alors, qu'est-ce qu'il veut lire? Ou je lis, hein, c'est comme vous voulez. Dans le temps, j'ai l'enregistreur à côté, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, c'est le sud de l'Irak, 14 verset 1. Shinéar, c'est le pays, l'ancien pays du paradis terrestre, c'est au sud, c'est là d'où vient Abraham. Arjok, roi des Lazars, de Kedorlaomer, roi des Lames, ça c'est l'Iran. Du Tidéal, roi de Goshim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tseboïm, au roi de Béla qui a Tsoar. Ces cinq villes-là qui sont citées ici, au verset 2, ce sont des villes qui existaient là où il y a la mer morte actuellement, qui a été détruite par des volcans, le soufre, le feu, et qui ont été recouvertes d'eau. Ces derniers s'assemblèrent tous en vallée de Sidim, donc de la mer Salée, la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer et la troisième année, ils s'étaient révoltés. Donc, nous voyons bien que ces gens ont une coutume, et c'est la même chose pour Job. Job, 21 siècles avant Jésus, quand il perd ses enfants, il perd ses troupeaux, ce sont des gens de cette tribu-là, les mêmes, qui viennent attaquer. Et qui ruine Job. Tout, il ne lui reste rien. Ça va? Alors, faites attention, ça vous pouvez le lire dans Job, chapitre 1 et 2. Il faut bien se dire ceci, c'est que quand Abraham a été confronté à ça, il a été courageux. Pendant la nuit, il est parti avec 300 hommes, surprendre les autres, et il a libéré Lot, il a libéré son neveu, sa famille, et d'autres qui venaient de Sodome et de Gomorre. Et, certes, et il faut savoir qu'au verset 17, donc Genèse 14, 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, près de Jéricho, et il veut faire un marché. Il veut tous les êtres humains, parce que Sodome, sodomisé, hein. Il veut tous les êtres humains, les hommes, les femmes, les enfants, parce que c'était la perversion totale, la possession des corps. Mais il veut bien faire un cadeau de tout ce qui est matériel à Abraham. Abraham refuse. Alors ce qui se passe, c'est que quelqu'un apparaît au verset 18, c'est Melchisédek, roi de Salem, Salem, Jérusalem, roi de la ville de la paix. Il fit apporter du pain et du vin, il était près du Dieu Très-Haut. C'est un Cananéen, ce n'est pas un Juif. Et dans Hébreux chapitre 7, il est mis clairement que c'est le Christ qui est venu là. Alors, il est venu au devant d'Abraham et il l'a béni. C'est dans Hébreux chapitre 7, les 7-8 premiers versets, vous pouvez la lire. Donc, clairement, le Christ est intervenu pour bénir Abraham, au moment où il y avait ce type d'invasion féroce. Bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand, dans Ézéchiel 38 et 39, il y aura des invasions féroces, à un moment donné, à la dernière invasion, c'est le Christ qui intervient, avec ses anges aussi. C'est pas par hasard, il faut faire des rapprochements, et si on ne fait pas de rapprochements, on ne comprend pas grand-chose. Bon, maintenant, tous ces peuples-là qui sont là et qui aiment la bagarre et qui s'entretuent entre eux, pourquoi est-ce qu'ils s'entretuent entre eux? Pourquoi est-ce qu'ils aiment le sang comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont cet esprit de querelle entre eux? Ben, c'est quelque chose que Dieu avait déjà annoncé. Dieu avait annoncé ça avec le fils de Agar. Vous savez qu'Abraham n'arrivait pas à avoir un enfant avec Sarah, et Sarah a demandé qu'il couche une fois pour avoir un gosse qu'elle prendrait à sa charge, qui porterait son nom, celui d'Abraham, et bien que cet enfant serait, bien sûr, naîtrait de Agar, mais il serait à propriété d'Abraham et de Sarah. Mais il se fait que Agar, l'Égyptienne, se moque de Sarah, parce qu'elle est enceinte, et l'autre est plus vieille, et elle n'a pas eu d'enfant. Madame Sarah, femme d'Abraham, est très vexée, et elle demande à Abraham pour pouvoir chasser cette femme et son enfant. Voilà. Chapitre 16, verset 4. Abraham, 16, verset 4. Abraham alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse Sarah avec mépris. Donc, chapitre 16, verset 4. Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Donc Sarah râle encore plus. J'ai mis ma servante dans ton sein, c'est-à-dire dans ton lit, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante dans ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur un chemin de Chour. Eh bien, cette source, cet endroit, ça s'appelle la Médine. C'est là que l'islam va commencer un jour. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Effectivement, il y a beaucoup d'Arabes. C'est les descendants du petit gamin qui va naître et qui s'appelle Ismaël. L'ange éternel lui dit, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Dieu entend. Hein? Dieu a entendu, il a donné un enfant. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire, l'âne sauvage? Eh bien, moi j'ai été voir quelqu'un qui fait de l'élevage d'ânes. Je voulais savoir, comprendre. Et la personne m'a dit, vous savez, ils ont l'air tous gentils comme ça. Dans les chevaux, il y a un dominant. Dans les moutons, c'est une meneuse, c'est une brebis. Dans les ânes, aucun. C'est l'anarchie acceptée. Ils sont tous chefs. Ils sont tous chefs et ils ne veulent pas qu'il y ait un qui soit super chef. C'est leur caractère comme ça. Anarchique et rebelle. Et dur. Alors, qu'est-ce que vous avez eu d'autre à me dire? Ben, elle dit, écoutez, une fois dans l'écurie, il y avait un renard, et il y avait un cheval, dans un de mes chevaux dans l'écurie, il hurlait, il hennissait, et parce que le renard s'approchait, et c'est un âne qui est arrivé, il s'est mis sur ses pattes arrière, il a sauté comme ça avec les pieds, il a pulvérisé le renard. Il l'a tué, et il a déchiré avec ses dents. Ici à Aide, pas loin, il y a une rivière. Là, on a fait un petit lotissement au bord de la rivière. Il y a un petit pont. Et il y a un homme qui, pendant 20 ans, a été à la pêche. Avec son anorak, sa bonnette et son sac. Il y avait un âne dans le pré. Et puis un jour, l'âne est arrivé par derrière, pendant qu'il pêchait. Il l'a attrapé par la bonnette et l'a traîné pendant 2 heures. Le gars hurlait, personne ne venait. Il tenait par le sac et la bonnette, le gars. Il ne le lâchait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dame qui m'a dit ça. La dame m'a dit, Nathalie, elle m'a dit, Gracia, elle m'a dit, ils ont un caractère imprévisible, ils peuvent être féroces comme gentils. Voilà le caractère des enfants d'Ismaël, des Arabes. Voilà le caractère de tout Arabe. OK? c'est des traits de caractère. Et donc, ces traits de caractère-là sont là. Et donc, c'est pour ça, si vous voyez, que à un moment donné, à l'époque du roi Josaphat, quand ils veulent attaquer, ils s'entretuent tous. Et quand ils ont pris Sodome et Gomorre, ils font la fête et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est ça qu'Abraham, avec 300 hommes, a pu les battre. Parce qu'ils sont désorganisés. Et regardez bien, depuis 30-40 ans, Israël a toujours régné. Ils sont moins nombreux que tous les autres parce qu'ils se disputent tous entre eux. Hein? Alors, c'est une réalité qui a été décrite dans la Bible et qui est là comme ça. Et ils seront à l'orient de leurs frères, c'est-à-dire, effectivement, Israël, le pays d'Israël, et tout ce qui est à l'orient, c'est des pays musulmans. Ce n'étaient pas musulmans, c'était des descendants d'Ismaël. Hein? Même qu'ils n'étaient pas musulmans, ils avaient ce caractère-là. Ce n'est pas lié à l'islam. Alors, c'est très important de savoir cela, parce que vous ne pouvez pas imaginer, Israël peut être moins nombreux et bien organisé et fort. Les autres sont désorganisés, rebelles et anarchiques. Vous avez compris ? Poutine. Comment ? Poutine. Non, Poutine n'a rien à voir là-dedans. Hein, je parle des pays qui vont attaquer un jour avec Poutine, qui vont attaquer avec Poutine. Hein ? Donc, l'Alliance du Nord est signée au mois d'août 22. L'Alliance d'Abraham est signée en septembre 2022. En sachant bien que cette alliance ne tiendra jamais le coup entre des juifs et des peuplades comme ça. C'est pour ça que j'ai lu ces textes. Des peuplades comme ça n'arriveront jamais à se mettre d'accord avec Israël. C'est parce qu'ils ont peur des chiites de l'Iran, qui a comme allié la Russie et la Chine. Ils ont tellement peur qu'ils se mettent avec Israël, qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. N'oubliez jamais, c'est le contexte de maintenant. Suite à l'Alliance du Nord du mois d'août, les soldats turcs, russes, iraniens se sont mis à attaquer les Kurdes en Iran, en Irak et en Syrie. Et il y a une guerre farouche, aussi farouche qu'en Ukraine, dont on ne parle pas. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça, les moyens d'information, je vous dis que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la lune qui cache le soleil. Parce que cette guerre-là, pourquoi il faut la cacher ? Mais parce que c'est les signes avant-coureurs de Ézéchiel 38. La grande guerre de butin qui est annoncée dans la Bible par Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, au chapitre 38. Et Satan ne veut pas que tout le monde sache qu'ils vont le faire. Et malheureusement, Israël a déjà compris qu'ils allaient arriver. Et les autres aussi, donc ils sont alliés, c'est ce qu'on appelle l'alliance d'Abraham. Ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. C'est un contexte pourri. Comme Israël sait qu'il va être attaqué et que les autres aussi risquent d'y passer, ben, c'était comme il y a 15 ans, quand la femme disait il y aura la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout était préparé pour. Donc, il faut faire attention. Nous sommes toujours mis au courant, mis devant les faits, et encore mal renseignés. Alors, dans Genèse 11, vous avez quelque chose de particulier. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Vous vous rappelez qu'au Qatar, et dans tous ces pays-là, les Belges et d'autres pays ont construit des tours de 400 mètres.
Plus 600.
Bon. Alors, pourquoi ? Pourquoi, les amis ? C'est au même endroit que Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue, le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, c'est la région là-bas. Ils y habitèrent et se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. » afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici le forme, etc. Vous connaissez la suite. Il va disperser, il va briser cette tour, et actuellement, cette civilisation que vous avez là-bas, c'est les mêmes fantasmes, si vous voulez. C'est les mêmes démons, si vous voulez. C'est pas par hasard que c'est là-bas. C'est les mêmes démons. Ou si vous croyez pas aux démons, les mêmes fantasmes. Mais fantasme vient du mot fantôme, hein, en grec, fantasmos. Mais c'est plus que des fantasmes. Hein. Pour certains, c'est des fantasmes de gloire et tout ça. Mais il y a quelqu'un derrière qui veut. Sans pétrole, la tour de Babel. Enfin, il en fallait pour mettre dans le mortier avec des briques. Puisqu'il y a encore des tours qui existent. Hein. Il y a encore des tours qui existent. Alors, si aujourd'hui cette civilisation de l'Irak et de Syrie ont toujours le même caractère qu'avant, et que la Russie, l'Iran et tout ça se mettent ensemble, il est clair que pourquoi veulent-ils aller en Israël ? Prenons Ézéchiel 38. Pourquoi veulent-ils aller en Israël ? Pourquoi est-ce qu'ils vont arriver sur un pays où les gens vont à l'école, ont des hôpitaux, ont des routes, travaillent dans des entreprises, comme ici, moi j'ai été voir, hein, et où les Arabes musulmans, arabes chrétiens, travaillent aussi de la même façon et ils vivent tous ensemble. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont arrivés à un degré technique, un degré d'économie, comme ici. Et voilà ce qui se passe au chapitre 38, verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur à propos de tous ces peuples alentour. Tu fermeras de mauvais projets, mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Et qui habitent tous dans des villes, sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Quand on parle de verrou de porte, c'est-à-dire des grosses forteresses avec des grosses portes, hein, comme les châteaux forts et tout ça.
Quand Jérusalem est ouvert à toutes les nations, il y a plein de portes et il
n'y
a pas
de... Ben, si vous allez en Israël, moi j'ai vu, hein, c'est comme Bruxelles, hein, c'est comme Anvers, hein, c'est... Il n'y a pas de muraille, hein. Et plus on voit du soleil, plus on met des grandes vitres, hein. On n'a pas mis des tours de pour blinder, hein. Alors, voici le motif de l'attaque. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés. Et occupant.
C'est un peuple recueilli du milieu.
Ben oui, évidemment. Donc c'est le peuple d'Israël. Ok ? C'est le peuple d'Israël qui est visé là. Ayant des troupeaux et des propriétés, je l'ai vu aussi, c'est vrai, occupant les lieux et une vie du pays, ben il faut dire que vous voyez souvent ici, dans nos pays, on habite dans les vallées, on construit dans les vallées. Ben là-bas, moi j'ai vu ça, on construit sur les collines. Et c'est clairement comme ça. Parce qu'on laisse les vallées pour faire la culture. Et l'élevage, on construit sur les collines. Tandis qu'ici, nous, on occupe les terres cultivables, on occupe les terres qui devraient servir pour la nourriture, on va y bâtir des maisons, des pavillons, de tout. On fait les choses à l'envers, peut-être. En tout cas, ici, les Juifs, on voit qu'ils ne le font pas à l'envers. Alors, Séba, c'est l'Arabie, dedans, c'est aussi les régions d'Arabie, les marchands de Tarsis. Tarsis, c'est Aragon en Espagne, et tous leurs lionceaux. Donc, les lionceaux, c'est ce qui représente la Syrie et l'Irak. Te diront, viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude ? Pour emporter de l'argent et de l'or ? Pour prendre des troupeaux et des biens ? Pour faire un grand butin ? Donc, le but, c'est le butin. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme et Agog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur les chevaux, etc. Donc on voit réellement que le but, c'est un but économique. Économique, le butin, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un but économique ? Il faut bien se penser qu'actuellement, ces peuples-là sont unis, ils ont fait des traités. Donc ils sont prêts. Ils ont des armées et tout, ils sont prêts. Pourquoi est-ce que le butin, il serait en Israël? Il n'est pas vraiment en Israël. Ce sont toutes les routes ancestrales qui passaient sur Israël, qui allaient vers l'Arabie, vers l'Afrique, et qui remontaient vers l'Europe, vers la Russie, vers la Chine. C'est ça qui est intéressant. C'est un point central de rencontre, un point central de commerce, de passage du commerce et des armées, forcément. Et donc, le butin, c'est l'Afrique. Vous voyez très bien que depuis des années, les Chinois sont partout en Afrique et les Wagner, les soldats en civil, hein, des truands, quoi, des mercenaires russes, sont dans toutes les régions où les Français viennent de déguerpir. Donc, la guerre de butin est préparée, ils ont déjà des gens de l'autre côté, maintenant il faut venir du nord, il faut faire ça, il faut faire la jonction. Et on a déjà fait des routes et des chemins de fer des deux côtés. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que c'est ça? C'est que dans Ésaïe, au chapitre 19, je pense que c'est 19, je vais aller voir. Chapitre 19, verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ça, je vais en parler après. Mais il y aura, au verset 23, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. Donc ici, Ésaïe annonce la conversion de ces peuples-là. Bon, pour qu'il y ait cette conversion, il faut qu'il y ait un choc énorme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une route. Les Assyriens, c'est l'Irak et la Syrie. Et l'Égypte. Donc, c'est la jonction de l'Afrique et du Moyen-Orient qui manque actuellement.
J'ai lu dans une
compris
d'Israël que Israël faisait des accords avec l'Égypte maintenant pour envoyer du gaz, parce qu'il y a plein de gaz dans la Méditerranée, les Israéliens, et ils font un accord avec les Égyptiens pour acheminer le gaz vers l'Europe.
Oui, bon, ce qu'il y a, ce qu'il faut bien savoir ceci, c'est que les Turcs ont régulièrement attaqué ces zones maritimes pour les réclamer, pour mettre la main dessus. C'est encore une source de bagarre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le butin, pourquoi est-ce qu'il faut un butin pour la Chine et la Russie? Parce que tout simplement, ils sont en train de s'appauvrir actuellement en Chine, depuis l'histoire du Covid, et en Russie, la guerre de l'Ukraine coûte cher. Et d'autre part, l'Europe achète moins, les États-Unis achètent beaucoup moins, et les États-Unis ne payent plus leurs dettes en plus. Ils ne payent pas leurs dettes à la Chine. Comprenez bien que ça doit râler. L'Europe est de plus en plus en train de s'orienter pour avoir le gaz et le pétrole autre part. Hein, donc la preuve de ce que Marianne dit, Israël veut les aider. Pourquoi? Israël veut les aider parce que c'est des riches américains qui font ça pour Israël, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le monde est divisé en deux pôles économiques très importants. Le Fonds monétaire international de New York, qui domine sur l'Europe, et qui est en train de l'appauvrir, qui domine sur beaucoup de pays, mais il y a eu des rebelles. Ils sont, depuis 15 ans, il y a un autre fonds monétaire international à Shanghai, dans lequel il y a la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine, et quelques autres pays. Ces gens-là à Shanghai ont une puissance économique. Alors, cette puissance économique est attaquée indirectement par les Américains, avec l'histoire de la Roumanie, et on achète moins à eux, donc il y a un manque à gagner. Ce manque à gagner, il faut le compenser par un butin. Et ce butin, il faut passer sur le petit pays, le mouchoir de poche qui s'appelle Israël. Parce que toutes les voies passent par là pour aller joindre tous les continents. Donc, le butin, c'est quelque chose. Il faut savoir que tous les pays sont dirigés par l'économie. Et là, tout ce qui est militaire et religieux suit l'économie. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, donc, pour la Russie et pour la Chine, Israël doit être évincé, doit être mis soumis. Pour l'Iran, qui nourrit le fiel contre Israël et qui donne toutes les armes et qui donne tous les ordres à Hamas, il n'est pas question qu'Israël reste là. Il faut le jeter à la mer ou il soit détruit. Donc, d'une façon comme de l'autre, Israël doit être évincé. Et actuellement, c'est pour ça que vous voyez, depuis 3-4 mois, il y avait un organisme humanitaire créé pour les Juifs en Russie qui permettait aux Russes de repartir en Israël, d'émigrer. Annulé, porte fermée, aucun Juif ne peut sortir. En plus, le président de l'Ukraine est Juif, et tous ceux qui l'entourent, il y a beaucoup de Juifs. En plus, au Fonds monétaire international de New York, il y a beaucoup de Juifs. Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, BlackRock, et encore d'autres. Donc, pour finir, il y a une haine d'Israël et du Juif qui commence vraiment à s'installer. Vraiment, hein, comme la même haine qu'avait Hitler, et qui va donner un phénomène un peu spécial qu'on appellera les tribulations. Donc, actuellement, si vous voulez, la Russie et la Chine s'affaiblissent, l'Europe aussi, les États-Unis ont repris du poil de la bête, mais l'Europe, elle, n'a pas de compensation. Elle perd son influence sur l'Afrique, c'est de plus en plus les Chinois et les Russes, et elle n'a pas de compensation, l'Europe est donc en train de se ruiner progressivement, ou très vite, si vous voulez. Il y a de ça 15 ans, par le commerce, elle volait 285 milliards d'euros à l'Afrique, dans les échanges commerciaux. Et donc maintenant, qui veut les avoir, c'est les autres, la Chine et la Russie. Donc l'Europe n'a pas de compensation, tandis que la Chine et la Russie veulent et vont faire la bataille pour la compensation, le butin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que en Syrie, il y a 220 000 et au Liban 220 000 roquettes placées par les Hamas, donc l'Iran. Seulement 42% de ces missiles sont arrêtés par les missiles Patriotes, qui volent à 2500 km/h, qui interceptent une partie. Mais la Russie a mis des missiles qui font 8400 km/h en Syrie, qui sont là, tout prêtes. Donc Israël est sans protection. Il faut bien se dire ceci, que finalement Israël peut être anéanti quand ils le veulent. Mais est-ce qu'ils les utiliseront? D'après la Bible, ils ne les utiliseront pas. Ils utilisent d'autres moyens, les chars, les tanks, etc. Donc, il faut bien savoir que on a une première guerre qui est annoncée pour bientôt. Ézéchiel 38, verset 2. Donc, avec Gog, prince de Roche, Méchec, Tubal, etc. C'est tous les pays de Turquie, de Russie et de cette alliance de 2002, de tout ce septentrion. Bon, c'est clair, cette guerre, ils l'ont bien montée. Mais ça lie aussi au verset 5 ceux de Perse, l'Iran, l'Éthiopie, donc le Soudan qui faisait partie de l'Éthiopie à cette époque-là, et l'Érythrée, et le pute c'est la Libye. Bon, tout cela c'est une bataille qui va se faire dans la vallée de Megiddo au nord d'Israël. C'est dans le nord d'Israël qu'elle va avoir lieu, dans cette immense vallée au nord de la Samarie, entre la Galilée et la Samarie, qui va de la mer de Tibériade jusqu'à Haïfa, la mer. Elle fait à peu près allez, je dirais 50 km de large, de long, sur 7-8 km, 15 km, ça dépend des endroits, de large. Napoléon avait été voir, lui. Il avait lu tous les textes, il a dit, oui, on pourrait mettre toutes les armées des nations ici. Il s'intéressait à tout ça, à toutes les grandes batailles. Cette bataille va être perdue par les gens qui vont attaquer Israël. Comment ? Au verset 21, Ézéchiel 30-21, j'appellerai l'épée contrôlée sur toutes les montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. C'est comme à l'époque de Josaphat, dans le texte de deuxième chronique, deuxième livre des chroniques au chapitre 20, ils se sont tous combattus entre eux, ils se sont tous trucidés. Quand le roi Josaphat arrive, il prend les richesses qui sont là à terre, parmi les morts. Eh bien, il y aura le même trouble mental, diabolique, entre ces gens-là, ils vont se trucider. Et puis, il y a un autre phénomène, verset 22, « J'exercerai mes jugements contre lui, donc Gog et Magog et tout le reste, toute cette coalition-là, par la peste et par le sang, par une pluie violente et des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui, sur toutes ses troupes, sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ainsi ma grandeur, ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, ils sauront que je suis l'Éternel. » Voilà donc un texte extrêmement important, parce que ce que ces gens-là sont en train de préparer va être leur fin. Leur fin. Rappelez-vous que Hitler a voulu exterminer Israël et les Juifs. C'est lui qui a été. 3 ans après, il y avait Israël. Alors, c'est surprenant avec Dieu. C'est très surprenant. C'est extrêmement surprenant parce que, alors, comment des grêlons peuvent... on va essayer de voir, on va essayer de voir ce qui se passe, comment on peut briser une armée avec des choses pareilles, des grêlons. Allons dans Juges, chapitre 5, au temps des juges. Juges, chapitre 5. Est-ce qu'il est possible de détruire des armées modernes avec des grêlons? Je vous dirai déjà oui, puisque j'avais vu Paul Sangois de Hête, qui avait fait l'Athénée avec moi, il y a 2 ans plus âgé, qui revenait d'une base de l'OTAN en Suède, et les grêlons d'un kilo qui avaient tout détruit. Piste, tour de contrôle, avion, etc. Donc, c'est possible. Déjà, je vous dis, la réponse est positive, c'est possible. Mais regardons dans la Bible, si c'est déjà pas arrivé. Chapitre 5, verset 4. Juges 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, donc c'est une ville, tout près de Sodome et Gomorre, quand tu t'avanças des champs d'Édom, donc c'est le sud, vraiment le sud de la région d'Israël, le sud de la région de Jordanie, c'est des ennemis farouches des Juifs, et actuellement c'est des ennemis farouches. Il y a des tribus là, pour vous dire, j'ai vu un film sur des chrétiens érythréens, soit ils partent vers la Libye et vers l'Italie, et puis ils arrivent en Europe, soit ils partent vers l'Égypte, et puis ils vont dans le Sinaï, ils passent dans ces régions-là pour aller en Israël. Et bien dans cette région-là d'Édom, les hommes sont enterrés et dans le soleil, à 55 degrés, la tête qui passe. Les femmes sont violées et vendues à Daesh, État islamique, comme esclaves. Voilà. C'est pas détendre, Édom. Quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, les nuées se fondirent en eau, les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pour montrer ce Sinaï, en Édom, il n'appelle pas le Sinaï, ça veut dire cette puissance où Dieu se révèle. Alors, au verset 19, les rois vinrent, chapitre 5, verset 19, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, dans tous les peuples alentours, à Tanakh, aux eaux de Megiddo, vous voyez, ils ne remportèrent nul butin, nul argent, Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les entraînait, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que tous les chars des Cananéens se sont embourbés tellement il pleuvait, et ils avaient des armures puissantes, ils étaient armés de fer, hein, les soldats et les chars, et les autres n'avaient que des frondes et des bâtons, et bien c'est eux qui ont gagné. Et donc, vous voyez, c'est une histoire qui est déjà arrivée et qui arrivera encore. Des chars très lourds, modernes, des engins très lourds, s'ils tombent des grêlons pendant des heures et qu'ils tombent de la boue, ils ne savent plus rien faire. Ils tombent de l'eau, une fois qu'ils s'enfoncent, que les premiers se sont enfoncés, les autres, tout le monde est calé. Ce n'est pas impossible que ça arrive encore. Alors, dans le chapitre 4, hein, déjà, Dieu avait dit, hein, avait donné l'ordre aux Hébreux sur le mont Tabor, il avait dit, au verset 7, « J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, donc c'est des Syriens, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, je le livrerai entre tes mains. » Et un peu plus loin, toujours dans le chapitre 4, verset 15, « L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. » En sachant qu'ils avaient des armures de fer, ils n'ont pas été loin, alors que les autres n'en avaient pas. Comment une situation peut se retourner en faveur d'Israël? C'est déjà arrivé souvent. C'est déjà arrivé tellement souvent que ça va encore se reproduire. Alors, prenons le psaume 11, verset 6. Psaume 11, verset 6. Vous savez, je n'ai pas été trouver ça dans des livres, hein. Il a fallu que je le cherche. Hein. Psaume 11, verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre, un vent brûlant. C'est là le calice qu'ils ont en partage. Psaume 11, verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. C'est absolument important de savoir ça. Nous allons même aller dans Ésaïe maintenant. Ésaïe chapitre 24, verset 18. Parce que ce n'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Les rabbins, les hommes qui connaissent bien la Bible dans Israël, ils savent tout ça. Hein. Donc Ésaïe, chapitre 24, verset 18. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, les fondements de la terre sont ébranlés, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, donc les démons, sur la terre les rois de la terre. Ok. Et bien sûr, à la fin du verset 23, l'Éternel des armées, donc des anges, régnera sur la montagne de Sion, Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens.
C'est où ça?
C'est la suite.
Ésaïe 24, à la fin. À la
21 à 24. Ah, oui.
La lune sera humiliée et le soleil couvert d'ombre, car l'éternité, car l'éternel le Seigneur des armées célestes règne sur le mur de Sion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant la terre.
Alors prenons Isaïe 17, verset 12. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine, avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Et c'est ça qui attend les armées qui vont attaquer. Et dites-vous bien qu'on ne dit rien, ils sont déjà à l'œuvre, surtout les zones kurdes. C'est comme aussi grave qu'en Ukraine. Et pourtant, pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'après, ils vont vers Israël. Alors, et pourquoi on ne le dit pas? Parce que le diable ne veut pas qu'on s'intéresse à Israël. C'est sûr, ça a toujours été comme ça. Au moment où les Juifs ont été mis dans les camps de concentration, 6 millions sont passés au four, tout le monde s'y intéresse. Je ne sais pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pas plus que maintenant, on le sait pour les Syriens et les Irakiens, et pour les Kurdes en Iran. C'est idem. On nourrit le silence. Regardons Ésaïe 34, verset 2. Il est intéressant de lire la Bible parce qu'elle nous donne des informations qu'on ne nous donnera pas à la télévision. 34, verset 1. Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, sa fureur sur toute leur armée, il les voue à l'extermination et les livre au carnage. Leurs morts seront jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Clairement, clairement, on voit bien qu'il y a un moment où Dieu va intervenir. Est-ce que c'est possible que des grêlons tuent? Bien sûr. C'est annoncé, c'est des grêlons d'un talent grec, c'est-à-dire 33 kilos. Vous imaginez, quand ça tombe de 10-12 000 mètres de haut, que faire? Il est trop tard pour se tirer. Hein. Alors, on a été dans Ésaïe 34, on va encore aller voir dans Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Verset 15, voici, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Verset 17, toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? Alors, Alors, regardez au verset 22, ça peut être intéressant, mais ça, j'en parlerai dans un autre truc, un autre message, une autre soirée. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Donc, la terre est ronde. Quand les ecclésiastiques ont menacé de mettre sur le bûcher Galilée, s'ils maintenaient que la terre était ronde, Galilée avait raison. Mais eux n'avaient pas lu la Bible, j'ai trouvé 5-6 passages comme ça. Et Galilée avait raison, et la Bible avec. Le pauvre homme, il a eu peur pour sa peau, il s'est rétracté. En attendant, vous voyez, il se dit des choses dans la Bible qu'il faut peser. Hein. Alors, pour le moment, il y a beaucoup de traités qui ont été signés, beaucoup d'accords qui ont été signés, des alliances. Mais il y en a une qui ne se fait pas, c'est celle entre les Palestiniens et les Juifs. Pourquoi ? Parce que Hamas est dans les mains de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Si après cette défaite des armées, l'Iran est défait aussi, Hamas sera défait. Hamas n'aura plus l'influence puisque l'Iran, comme les autres, se seront fait démolir. Alors, un accord de paix entre les Juifs et les Palestiniens pourra être signé. Un accord de paix et la création d'un État palestinien. Et il est clair qu'il sera signé sous la garantie de l'ONU. Et ça, c'est Luc 21, verset 30.
Mais ça, c'est après la bataille des Palestiniens.
Je pense qu'avant, c'est impossible. Avant, c'est impossible. Les États-Unis, ils poussent et les Palestiniens refusent. Parce que c'est Hamas, l'Iran, qui ne veut pas. Je pensais que c'était avant. Mais quand je vois comment ça s'oriente, impossible. Personne ne pourra forcer les Palestiniens à la création d'un État. L'option de chiite de l'Iran, c'est détruire ou rejeter la mer.
C'est pour ça qu'ils font des recherches.
Pas d'Israël.
Sur le nucléaire. C'est ça qui développe le nucléaire. Oui.
Encore et toujours, il y a longtemps qu'ils s'y mettent, tu sais. Et puis ils sont aidés par le président de la Corée du Nord. Hein. Dans Luc 21, verset 20, pour arriver à imposer cet accord de paix, il faudra bien sûr que tout le monde soit brisé. Hein. Israël sera évidemment béni, parce qu'il verra ses ennemis détruits sans qu'il ait eu besoin de se défendre. Mais pourquoi alors accepter de signer avec des gens et de laisser une partie du territoire pour avoir le temple, pour avoir un nouveau temple à Jérusalem? C'est ça qui va, c'est l'objet du chantage. Et rappelez-vous, à l'époque de Jésus, le temple qui a été construit, c'est Hérode, il est iduméen, il est arabe, et c'est les Romains, c'est pas les Juifs. Le cadeau fait aux Juifs, avec des prêtres qui ne devaient pas être prêtres, les pharisiens ne doivent jamais être prêtres. Dans la Bible, c'est les descendants de Sadoc, ce doit être des descendants d'Aaron, des Lévites. Alors, qu'est-ce que c'est de ça ? Parce qu'on a fait un nouveau temple, on veut mettre aussi des gens qui ne vont pas trop loin dans la religion. Donc on met les pharisiens. Tête carrée, obtus et stupide. Et ce qu'il y a, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, si un jour on voit Israël reconstruire un temple, ça sera le beau cadeau que les juifs fervents, veulent à Jérusalem. Soit à la place d'un mosquée, soit à côté. Quand on voit la mosquée, en fait, sur le plateau, là, c'est des dalles, hein, très solides, il y a des petites colonnettes avec une coupole assez bien écartée. C'est là qu'était le Saint des Saints du temple. Donc, il pourrait le construire à côté. Luc 21, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Les armées des nations, hein, c'est les armées de l'ONU.
C'est
Luc 21, verset 20. Mais les armées des nations ne sont pas forcément très gentilles. Elles vont être justes pour calmer le jeu un certain temps. Et puis Israël va souffrir. Quand ils seront là, impossible de les mettre dehors, et Israël va souffrir. Ce temps de paix signé avec Israël ne durera pas longtemps. Il sera juste là pour séduire. Et la grosse compensation qui fait qu'ils sont séduits, c'est la reconstruction du temple. Mais voilà, dans ce temple et dans ce monde, il y aura un homme désigné par l'ONU, hein, par la Chine, la Russie, par les États-Unis, un homme pour diriger, un homme de paix, un homme merveilleux qui va arriver à faire comprendre tout le monde. Cet homme merveilleux, en fait, qui est choisi, c'est l'Antichrist. Et pendant 3 ans et demi, tout le monde est content. Et puis, à un moment donné, dans le temple, il veut se faire adorer comme Dieu. Alors, les vrais juifs, les juifs chapeau croulé, qui, de toute façon, étaient contents de leur temple, adorer ce gaillard-là au lieu d'y arriver, ça ne marche pas. Ils se rebellent. Ils se rebellent, comme à l'époque d'Antiochus Épiphane, en moins 163, quand Antiochus a mis une trouille sur l'autel, un cochon, pour que les Juifs l'adorent. Alors là, ça a été le chambard, la guerre à outrance. Les Juifs ne sont pas laissés faire. C'est les leaders de cette révolution juive, c'était les Maccabées, une famille, les Sadducéens. Et donc ici, c'est clair, Israël se rebellera. Israël, il y aura des martyrs. Hein? Donc en fin de compte, c'est une paix diabolique qui aura été, qui les aura trompés. Alors, la volonté de briser Israël, une deuxième fois, va revenir. La première fois, ça a raté, dans la vallée de Megiddo au nord. Maintenant, on va venir en plus grand nombre. Puisqu'Israël fait le malin, on va venir en plus grand nombre. Ça, c'est Ézéchiel 39. Et qu'est-ce qu'il y a là? Dans Ézéchiel 39, eh bien, il va y avoir la Chine avec. Eh oui. Mais regardons d'abord Ézéchiel 39. Donc, il y a 3 ans et demi de fausse paix où ils sont leurrés. Il y a ce scandale où les Juifs se révoltent et sont martyrisés, massacrés. Et puis ensuite, il y a, à un moment donné, l'intervention du Christ, hein, l'intervention de Dieu pour sauver Israël, parce que là... l'assaut final des nations est beaucoup plus conséquent que la première fois. Chapitre 39 prophétise contre Gog, tu diras ainsi parle le Seigneur, j'en veux à toi Gog, prince de Rog, Meshech et Tubal, ça recommence, hein, c'est la même, je te ferai monter des extrémités du septentrion, je t'amènerai sur la montagne d'Israël, je battrai ton arc de ta main gauche, je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, les peuples qui seront avec toi. Alors, verset 6, j'enverrai le feu dans Magog, c'est la Russie, parmi ceux qui habitent en sécurité des îles, ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, je ne laisserai plus profaner mon saint nom, les nations sauront qui je suis. Alors, je vous le dis d'avance, là, ce verset-là, 7, vous allez voir le 29, je ne leur cacherai plus ma face, donc Dieu va se montrer, c'est le Christ. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ok ? Pour montrer la face de Dieu, c'est le Christ. Et ça, c'est dans Zacharie, chapitre 14. Sur le mont des Oliviers, les anges avaient dit aux apôtres, ah, qu'est-ce que vous attendez là? Jésus reviendra au même endroit qu'il est parti. Et là, le monde des oliviers est fracassé en deux. Alors, tellement la puissance de Christ est grande. Alors, dans Ézéchiel 39, je ferai connaître mon nom au milieu de mon peuple d'Israël, c'est le Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 9, c'est que toutes les armes des nations seront fondues. Et vous savez pourquoi faire ? Dans Michée et dans Ésaïe, pour faire des houes, des pioches, c'est fini les gros tracteurs. Pour faire des houes et des pioches, on va fondre toutes les armes. C'est fini, cette économie. Ok ? Alors, je vais maintenant au verset 11. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. La mer morte, si vous voulez, il y a un endroit où toutes les caravanes passaient, du côté Jordanie. Et ça s'appelle le passage des voyageurs. C'est la vallée de la multitude. Regardez dans le verset 11. Et là, ça, c'est la deuxième bataille. Qu'est-ce qui va se passer là ? C'est plus grave que les autres. L'autre fois, 7 ans avant, sur le mont, dans la vallée de Megiddo. Toutes ces armées-là, qui sont nombreuses, sont au nombre de 200 millions, ils sont tués. La maison d'Israël les enterrera, verset 12, afin de purifier le pays. Cela durera pendant 7 mois. Alors, c'est un festin pour les animaux, pour les oiseaux, tout ce que vous voulez, qui mangent la plante. Hein. Tout ce que Dieu veut, c'est que cette fois-ci, Israël sache que le temps des nations est fini. Le temps des nations est terminé. Et que les autres juifs qui sont autre part reviennent. Verset 27. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, je ne leur cacherai plus ma face, je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur éternel. Ça, c'est tout Ésaïe chapitre 2 et Ésaïe 65, verset 17.
Est-ce qu'on peut voir là-dedans, un rapprochement avec les paroles du pape François, qui parle de maison commune.
Je ne sais pas s'il voulait dire ça.
En disant, bon, on est tous dans la même charrette, et malheureusement, pour, donc c'est dans le blague, c'est le statut. C'est sa plus importante, je veux dire, communication qu'il a faite concernant l'écologie. Il parle d'une maison commune. Ici, il n'y aura plus de nation.
Oui, ben oui, évidemment, ce sera fini, la division de la tour de Babel. Ce sera fini. Cette puissance-là qui est révélée, au verset 21, « Je manifesterai ma gloire parmi toutes les nations. » On va aller voir dans Zacharie, un peu avant Matthieu, la puissance du Seigneur s'opère d'une manière incroyable. Ben, c'est déjà en partie dans le chapitre 13, on va regarder. Chapitre 13, verset 6. Si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Donc Jésus, en personne, vient ressusciter et montre ses mains et ses pieds. Là, c'est un tournant.
Saint Thomas.
Ah ben, pour tous les saint Thomas de... Alors, verset 8, dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, c'est-à-dire dans la parole divine, le Christ. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Vous avez vu la jonction entre le Christ et ceux d'Israël qui sont convertis. et bien sûr les autres nations. Hein? Mm-hmm. On va aller voir dans l'Apocalypse, il y a les 144 000 et puis il y a les nations. Chapitre 14, voici le jour de l'Éternel arrive, tes dépouilles sont partagées au milieu de toi, c'est ce qui se passe pour Gog et Magog et tous les autres pays, hein, qui est cité dans Ézéchiel 39. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront en pied, les femmes violées. Regardez la férocité. La moitié de la ville est en grande captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Il faut savoir que la ville est habitée par beaucoup de gens qui ne sont pas juifs. Hein. Et donc, le reste du peuple, à mon avis, c'est juif. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations qu'il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident. Alors il se formera une très grande vallée, etc. Verset 6. Il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Alors, chers amis, il est clair que il y a eu le même jour quand Jésus était sur la croix à midi. Oui, quand Jésus était sur la croix à midi, eh bien, si je retrouve mes notes, je vais vous le lire. Mais alors là, on n'est plus dans le hasard. Hein. Vous voyez bien que Dieu connaît son horloge parfaitement, elle est minutée. Hein. Je dis ceci, page 93. Le jour où les ténèbres ont recouvert la terre. Les passages où les auteurs des évangiles prétendent que la nuit est tombée sur la terre à un certain moment, à midi, de la crucifixion de Jésus, était un des passages du Nouveau Testament qui paraissait le plus incongru, s'il ne s'agissait que d'un artifice littéraire. Et puis, après tout, si l'obscurité est tombée, ne devrait-on trouver au moins la trace de cet événement extraordinaire ? Eh bien oui, Jules l'Africain, vers 221 après Jésus-Christ, relate l'œuvre d'un grec de l'an 52, Talus. Talus, en l'an 52, a écrit une histoire incroyable qui semble bien réelle. Il explique qu'une obscurité est venue sur le monde entier par une éclipse de soleil. Cela n'apparaît pas raisonnable. Et pourtant, cet obscurcissement, au moment de la crucifixion de Jésus, a été confirmé. Pontius Pilate, Phlégon et d'autres ont écrit. Il est écrit que ce phénomène a été visible à Rome, à Athènes et dans d'autres villes méditerranéennes. D'après Tertullien, il s'agissait d'un événement mondial cosmique. Phlégon, un auteur grec originaire de Carie, a rapporté dans sa chronologie écrite peu après 137 que la quatrième année de la 202e Olympiade, c'est-à-dire en l'an 33, a eu lieu la plus grande des éclipses de soleil, que la nuit est tombée à 6e heure du jour, midi, au point que des étoiles sont même apparues dans le ciel. Il y a eu un grand tremblement de terre en Bithynie, en Turquie, de grands tremblements à Nicée. Il existe donc des sources, des attestations non chrétiennes, extra-bibliques, de cet événement dont parlent les apôtres au moment où Jésus est sur la croix.
Il a oublié de relater que la tenture du temple a été déchirée. Dans
11 mètres sur 9 et 10 cm d'épais. Il faut deux camions pour déchirer ça. Eh bien, ça a été déchiré, oui. Parce que l'accès à Dieu est ouvert. Quand Jésus est mort, l'accès est ouvert à Dieu. Avant, le voile représentait l'impossibilité d'accéder à Dieu. Parce que le péché nous empêche de rencontrer Dieu. Et comme le péché a été payé, a été expié par Jésus, on peut rentrer en contact avec Dieu. C'est sûr. Et ça, Mais en tout cas, ce jour unique, Zacharie 14:6, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière reparaîtra. Alors, des eaux vives sortiront de Jérusalem, elles couleront moitié vers la mer orientale, la mer morte, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été-hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, sera le seul nom. Et vous voyez, il y a des choses qui concordent. Alors, est-ce qu'il n'y a que les Juifs qui sont sauvés ? D'abord, il faut dire non. Parce que ces peuples qui sont brisés, ils ont aussi une capacité de réflexion. Ils ont aussi, ils peuvent se repentir. Alors, prenons Ésaïe. Et Dieu, bien sûr, se révèle à eux, évidemment, pour qu'ils se convertissent dans tous ces événements-là. Eh bien, chapitre 18, verset 7, de Ésaïe, donc c'est 800 ans avant, hein. « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves. » Donc, c'est Syrie, Irak, hein, ça. Avant, c'était Assyrie. Hein. Et elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion, Jérusalem. Quoi. Et à la fin du chapitre 19, verset 21, l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, et il frappera mais il guérira. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a la première et deuxième bataille, au début de la tribulation, la deuxième, ils sont frappés, ils sont guéris. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils se repentent. Ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les repentira, les guérira. En ce même temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera Louis III, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. » Voilà le plan de Dieu pour ces peuples-là. Hein? Maintenant, on a la même chose dans... Il y a déjà une preuve aujourd'hui que ça arrivera. Il y a déjà une preuve aujourd'hui. Au verset 19, chapitre 19, verset 19, « Il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. » C'est quoi? Vous allez sur l'île d'Aléphantine, les touristes qui vont sur le Nil en bateau, à un moment donné, à l'ancienne frontière entre l'Éthiopie et l'Égypte, il y avait des garnisons juives du temps des rois perses qui gardaient la frontière. Et sur une des îles, ils ont construit une copie du temple de Salomon. Et elle y est. Sur l'île d'Éléphantine. Et c'est là. Quand elle a été construite, c'était vers l'an 345. Là, ici, c'est... Quand Isaïe l'annonce, c'est 780 avant Jésus. Et le bâtiment y est. Ça veut dire que la conversion de ce peuple est certaine. Psaume 87. Psaume 87. Je termine, hein, parce que je suis...
fatigué.
Vous êtes quoi, hein? Dans le psaume 87, c'est l'Esprit Saint qui fait dire ça à David. Psaume 87. Donc, Jérusalem, elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, une des collines de Jérusalem, plus que toutes les demeures de Jacob, toutes les autres villes, les villages d'Israël. Quoi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone, comprenez bien ce que c'est, c'est l'Irak et la Syrie. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, et qui ont toujours été ennemis, et que Titus a changé de nom. Palestina, Palestinien, Philistin, c'est la même chose. Hein, voici le pays des Philistins, Tyr, ça c'est la Phénicie, c'était celle de Liban, avec l'Éthiopie, qui avait attaqué aussi dans la première guerre. Hein, je vous ai décrit la première guerre, ils sont dedans. Eh bien, c'est dans Sion qu'ils sont nés. De Sion, il est dit, tous ils sont nés, c'est le Très-Haut qui l'a fermé. De quelle naissance il s'agit ? Celle que Jésus a demandé à Nicodème. Il te faut naître de nouveau. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Hein ? Et ça, c'est Jean chapitre 3. Et donc, l'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. La Bible, tout compte fait, fait le tour de l'histoire humaine d'une façon, une jolie façon. Hein. Une jolie façon, et tout ce qui se prépare là actuellement, ça finira par la gloire de Dieu, et par, pour beaucoup de peuples, par la conversion, et fini le toin-toin, fini la misère. Il y aura une véritable conversion d'Israël. Hein, vous savez que dans Luc 21, verset 27, il est dit « Le figuier reverdira ». Moi, je l'ai vu en 2008. Là, il y avait quatre prêtres qui vivaient auprès du tombeau d'Étienne sur une colline. Eh bien, ils venaient chercher des Bibles avec le Nouveau Testament, des Juifs. 100 à 110 000 Juifs venaient chercher une ou plusieurs Bibles. À cet endroit-là, caché derrière l'église, l'ermitage des prêtres. Et qui les a édités ? Des chrétiens juifs devenus messianiques, c'est-à-dire qui croient en Jésus. Les juifs messianiques de Jérusalem. Qu'on a rencontrés d'ailleurs. Alors, la gloire de Dieu est certaine. La défaite des nations est certaine. L'orgueil connaîtra bientôt son dernier jour. Satan va encore essayer. En séduisant Israël. Satan va essayer encore de mener Israël à sa perte et les nations. Évidemment, c'est à nous de persévérer, c'est à nous de tenir. Mais en tout cas, Satan n'aura pas le dernier mot. Le Christ revient sur le mont des Oliviers en gloire et en puissance. Et vous savez ce qui est mis dans Genèse, chapitre 3, que le fils de la Vierge a le pied... sur les têtes du serpent, il lui écrase la tête. Donc c'est le Christ. Il écrase la tête. Luther disait ceci, depuis que Jésus est mort et ressuscité, Satan a la tête écrabouillée sous le pied de Jésus, il ne fait plus que de gigoter, de se débattre, mais sa fin approche. Seigneur mon Dieu, béni nos âmes, nos cœurs, mais une profonde espérance, Seigneur. Tu es au contrôle de l'univers, au contrôle des événements. Et tous tes prophètes, et Jésus-Christ, et les apôtres en étaient persuadés. Donne-nous la même conviction, Seigneur, la même foi, et la même assurance, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Mm-hmm.